Nous sommes maintenant en ligne dans ces promesses de l'aube du mercredi 23 juin, en ligne avec Farid Oussemgan. Farid, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour.
Bonjour, eh bien ça marche, je suis bien contente. Farid Oussemgan, vous êtes le cofondateur et le metteur en scène de La Troupe du Possible et c'est pour votre dernier spectacle à propos d'Artaud et autres interviews télévisées que j'ai le plaisir de vous avoir en ligne. Merci d'avoir accepté cette invitation de grand matin. Votre spectacle a déjà été montré une fois au théâtre 140, donc il y a quelques semaines, c'était une diffusion presse, on était encore en semi-confinement. Mais avant de nous parler de ce spectacle, est-ce que vous pourriez nous refaire un petit historique de la troupe du possible, qui est une troupe pas si banale, justement, parce que elle est sur au milieu de deux mondes, le monde théâtral, mais aussi un monde plus issu de la psychiatrie, du monde, d'un monde de non-professionnels, en tout cas. Comment est née la troupe du possible?
Alors, voilà, bonjour Zoé et merci pour votre invitation. Voilà, pour la troupe du possible, elle est née en 2002, donc on va bientôt fêter nos 20 ans. Et elle est née effectivement d'une nécessité collective, en fait, je pense. Donc, dans un milieu psychiatrique, en résistance avec la question du soin psychiatrique. Donc, si vous voulez, j'avais un atelier de théâtre. Qui faisait partie de la panel des ateliers que j'avais, parce que moi-même je viens du milieu plus psy d'orientation psychanalytique et aussi des arts plastiques. Et donc nous avions un atelier, j'avais plusieurs ateliers dont un atelier théâtre. Et donc à un moment donné les gens de l'atelier théâtre se demandaient pourquoi ils faisaient que des ateliers et qu'ils faisaient pas vraiment un spectacle devant un public, etc. Puis on s'est dit, bah tiens, oui, pourquoi pas, et effectivement. Et puis les gens sont devenus acteurs d'une troupe. On a laissé un espace pour cela, et en plus de l'atelier théâtre, hein, parce que quand vous faites un atelier théâtre, vous êtes mandaté par l'institution pour vous faire aller mieux. Tandis que une troupe, c'est les gens même de la troupe qui construisent leur propre manière d'aller mieux. Donc, c'est plus l'institution, parce que si vous voulez, si l'institution propose de l'art, ben c'est quand même l'art, c'est quand même le dernier lieu de liberté. Et donc, s'il est contrôlé par l'institution, c'est qu'il y a un effet un peu pervers. Donc là, ils sont réappropriés leur manière de faire de l'art, donc en l'occurrence du théâtre, et on a appelé ça tous ensemble la troupe du possible. Et tout ça a été construit avec Thierry Snoy, qui venait d'être retraité en tant que psychologue dans cet hôpital psychiatrique et qui voulait faire du théâtre et qui est venu dans mes ateliers et de là on a autorisé, on s'est autorisé tous à la fondation de ce qu'on a appelé la troupe du possible dans l'institution où on laissait déjà entrer des personnes, des professionnels de l'extérieur et où tous les rapports soignants-soignés étaient complètement disloqués. Donc dans l'hôpital, donc ça créait, c'était un peu troublant pour les psychiatres classiques ou les infirmiers ou les psys classiques parce que on voyait plus la différence entre le soignant et le soigné.
Et justement, ce rapport entre le théâtre et la thérapie, et donc le fait de se dire ben, comment d'utiliser justement le théâtre et l'expression comme forme d'aller mieux, est-ce que c'est quelque chose que j'imagine qui est assez courant dans le milieu théâtral, ou justement vous faites figure d'ovni ou d'otni plutôt par rapport à ça?
Alors, j'ai envie de dire les deux, parce que c'est assez courant, mais si vous voulez, nous, on ne se présente pas comme... on ne présente pas les choses comme faire du théâtre pour faire de la thérapie. On ne se présente pas comme de l'art-thérapie. On présente les choses comme, je veux dire, pour n'importe qui, de faire de la peinture ou du théâtre, etc. C'est thérapeutique en soi, donc il n'y a pas besoin d'être en blouse blanche pour proposer ça. C'est juste que nous on le fait dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on fait, on arrive à garder cet équilibre entre professionnalité et amateurisme, si vous voulez. Amateurisme, c'est ce qui aime. Et donc si vous voulez quelqu'un de la troupe du possible, parce qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres, hein, c'est pas forcément les dits psychiatrisés qui sont plus fragiles, parfois sont des gens qui se cachent bien derrière leur couverture sociale, qui sont les plus fragiles. Si vous voulez, le fait que ça fasse, ça soit thérapeutique, c'est de pouvoir faire lien avec un collectif, et que nous, avec notre expérience, nous, quand je parle de nous, c'est les fondateurs ou le cadre ou l'équipe, on n'est pas impressionné par les symptômes névrotiques ou psychotiques des personnes qu'il y a dans la troupe. On considère juste que ce sont des particularités d'individus et on fait collectif comme ça. Donc, on est, dans ce sens-là, on est un ovni, mais sinon, des ateliers d'art-thérapie, il y en a plein. Il y en a plein, partout. Mais ils sont contrôlés par des institutions qui veulent faire du bien, qui veulent soigner, si vous voulez. Et donc, il y a la personne qui sait comment faire de l'art ou comment faire du soin, avec une autre personne qui vient apprendre sous l'aura de cette autre personne qui est dans le savoir.
Et justement, vous dites aussi que travailler justement avec ces personnes qui ne sont pas professionnelles, qui sont amateurs, amatrices de la chose théâtrale, ça change complètement votre façon de travailler, de mettre en scène un spectacle. J'imagine qu'il y a tout un travail qu'on fait d'habitude avec des comédiens et des comédiennes professionnelles que vous ne devez plus faire, ou que vous faites différemment avec des non-professionnels, justement?
Alors, on a aussi des dits professionnels, hein. On a des dits amateurs, des dits fous, des dits normaux, des dits malades, etc. C'est-à-dire que chez nous, il y a une tabula rasa, si vous voulez, au départ, et pour moi-même également, c'est-à-dire que on est tous des amateurs de la chose qu'on va créer. C'est-à-dire il y a pas de CV psychiatrique ou de CV de danse ou de CV de théâtre qui va être prédominant dans la chose qu'on va créer. On est tous complètement néophytes par rapport à ce qu'on va créer, et donc il faut se former par rapport à ça. Alors moi, j'ai plus facile à travailler avec quelqu'un qui me dit j'ai jamais fait théâtre ni de danse, et on m'a dit que j'étais schizophrène, que de travailler avec quelqu'un qui me dit moi j'ai un diplôme en ci, en ça, etc. et tout, je suis complètement normal, il y a pas de... Parce que si vous voulez, il va falloir, je préfère qu'on parle, comme je vous disais, qu'on parle tous sur une table rase. mais quelqu'un qui a déjà creusé un petit peu la chose existante, sa propre chose existentielle, c'est déjà un travail en moins que j'ai à faire, parce que le bon névrosé qui vient d'une école classique, etc. et tout, ben il va carburer avec son éloquence, son savoir-faire. Alors que là, et je comprends, parce que il sort de l'école, il a envie de faire ce qu'il a appris, et avec ces personnages, devoir désapprendre certaines choses, en tout cas pour cette aventure-là, afin que nous soyons tous dans le même bateau, en fait, qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent avec croyant que leur CV va leur apporter plus que d'autres dans la troupe. Donc c'est ça qui permet aussi quelque chose d'assez égalitaire dans le groupe, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui il y a pas de gens qui sont meilleurs que d'autres.
Et par rapport à votre spectacle, donc celui pour lequel je vous ai invité à propos d'Artaud et autres interviews télévisées, il y a aussi ce lien, cette rencontre avec l'univers d'Antonin Artaud, qui lui aussi a fréquenté, on va dire, l'univers psychiatrique, et donc en a tiré aussi des réflexions et des savoirs. Est-ce que après 15 spectacle, je pense. Est-ce que c'était naturel que la troupe du possible fasse cette rencontre avec l'univers d'Artaud ?
Alors, c'est vrai que les premiers spectacles, on a fait des choses qui n'avaient rien à voir avec la psychiatrie, et puis après on a fait un truc qui avait à voir avec la psychiatrie, mais c'était par rapport au DSM. C'est un dictionnaire qui classifie tout le monde dans une pathologie, et de plus en plus, il devient de plus en plus gros. C'est-à-dire que si vous voulez être malade psychiatrique, allez regarder, vous allez trouver un truc, et vous pouvez être diagnostiqué malade psychiatrique. Mais après, on a fait des choses qui n'avaient rien à voir, qui étaient beaucoup plus abstraites, qui étaient de la danse, qui étaient du mouvement, de la danse-théâtre, forcément. Et il faut savoir que notre lieu de répétition jusqu'au confinement était au club, un centre thérapeutique de jour, de psychiatrie plutôt alternative, qui travaille juste avec des ateliers artistiques, qui s'appelle le club Antonin Artaud. Et nous, on était là pendant, je sais pas, une dizaine d'années, plusieurs fois par semaine. C'était notre lieu, et on n'a jamais pensé à faire quelque chose sur Antonin Artaud. Alors, je sais plus pourquoi on avait décidé il y a plus de deux ans, interrompu par le confinement, de faire de s'orienter vers du Artaud. Oui, c'est peut-être parce qu'on voulait revenir plus sur du texte, parce que le dernier spectacle, par exemple, il n'y avait pas de texte, c'était des onomatopées, etc. et tout. Et au niveau du texte, il semblait que la littérature d'Antonin Artaud proposait des choses qui plaisaient beaucoup à l'ensemble de la troupe, c'est-à-dire qu'il y a des choses très concrètes et il y a des choses complètement abstraites, et qui allaient bien avec le mouvement aussi, avec le travail du mouvement. Et donc on s'est baigné là-dedans. Et après, comme c'était un spectacle, comme ce spectacle était un spectacle de mise en abîme narrative et scénographique, on s'est dit qu'au niveau du texte, de travailler sur Artaud, ça pourrait être une belle mise en abîme aussi, étant donné qu'il y a des gens qui ont quasi le même parcours que Artaud dans la troupe. Donc voilà.
Et ici, il est pas question que d'Artaud, mais aussi vous partez, si j'ai bien compris, de la rencontre qu'Artaud a pu faire avec Lacan et du fait d'imaginer qu'il y a des images, qu'il y a les images de cette rencontre, et donc à partir de là, vous imaginez d'autres interviews et d'autres rencontres télévisées que vous mettez en scène, notamment est-ce que Platon a rencontré Bouddha et vous partez justement sur cette mise en évidence des images qu'on peut avoir d'une réalité, mais aussi des différents de l'utilisation de l'image actuellement et de cette société complètement télévisée qu'on peut télévisée elle n'est plus fort télévisée actuellement, mais où l'image a beaucoup de place.
Oui, alors on s'est fort inspiré, notamment grâce à une équipe technique de vidéo, dont Aurélie Le Porc a géré la coordination. C'est que on a fait on a créé un plateau qui parfois est une émission télé. Qui est une archive de la troupe qu'on a retrouvée et qui date de 500 ans avant Jésus-Christ, par exemple. Donc, si vous voulez, on s'autorise à dire des choses comme ça, parce qu'on est au théâtre, et à l'affirmer. Et on est sûr de nous, quand on dit ça, on vous dit ça, ben c'est ça, en fait, parce qu'on le fait au théâtre. Donc, par exemple, Lacan et Artaud, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais nous, dans ce spectacle, on vous le dit. C'est-à-dire que on va le dire en le reproduisant. Et voilà, parce que c'est le pouvoir du théâtre qui nous permet de faire cette proposition-là. Et donc elle est vraie parce qu'on la joue et on la fait. Donc voilà. Donc on joue sur ce type de mise en abyme, et après tout d'un coup on n'est plus du tout au théâtre, on est dans des préparatifs, on ne sait plus si on est en différé ou si on est en duplex ou si on joue vraiment ou si on fait semblant de jouer. C'est un peu comme ça pendant les 1h25 de spectacle.
Comment vous êtes très très c'est un spectacle aussi où il y a et généralement vos spectacles ont beaucoup de personnages, beaucoup de monde sur le plateau, et du coup ça donne justement cette impression d'énergie, mais aussi parfois notamment dans le spectacle, visiblement il y a les interviews, donc, et parfois il y a cette cacophonie ou cette incompréhension entre les personnes qui sont interviewées, celles qui les interviewent. Et donc, est-ce qu'il y a cette réflexion aussi justement sur le langage, à partir du langage du corps et le langage parlé, ce qu'on nous donne à voir et à comprendre?
Oui, voilà, il y a souvent ça, c'est-à-dire qu'on fait une sorte de diversion de ce qu'il y a à comprendre, et c'est-à-dire que dans les codes classiques dramaturgiques, ben on vous donne un début de fil, et vous, ça c'est comme un peu dans les séries, et vous savez que c'est là que vous allez aller. Et vous vous laissez glisser, et c'est chouette, c'est palpitant comme ça. Mais dans ce que nous proposons, en tout cas dans ce spectacle, ça peut être un peu frustrant parce que on balade un peu le public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pensez que vous avez compris, mais non, il se passe autre chose. À un moment donné, vous pensez que c'est harmonieux et c'est beau. eh bien, il y a quelque chose qui vient, une personne qui vient, qui traverse l'écran ou le plateau, et qui crie et qui vous sort de la fiction pour après retourner dans la fiction. Donc, si vous voulez, on laisse pas le public, le spectateur tranquille. Dans ces cadres de référence, c'est-à-dire qu'on essaie de sortir à chaque fois de ça. Dès qu'on croit qu'on est un peu dans quelque chose qu'on a compris et ah oui d'accord ça va être comme ça, eh ben ça c'est pas ça. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le spectacle.
Et ici donc je disais en début d'entretien que le spectacle avait été montré déjà une fois au théâtre 140 et ça a été l'occasion justement d'une captation par la RTBF, c'est ça qui et donc le spectacle sera diffusé sur Ovio je pense à partir de vendredi, c'est ça?
Oui, donc RTBF Restart, on a fait partie du programme RTBF Restart. On a eu la chance, parce que c'est quand même bien quand vous avez une jauge de 50 personnes autorisées que aux professionnels, c'est-à-dire qu'à la presse et aux programmateurs. C'est bien d'avoir un public qui est l'équipe de captation de RTBF Restart. Et donc là, c'est une captation qui sera diffusée à partir de sur toutes les plateformes de la RTBF, je pense, sauf erreur de ma part. Et en tout cas, sur Ovio, RTBF Ovio, à partir du 25 de ce vendredi, et ce pendant potentiellement 2 ans. Mais après, je ne sais plus très bien quels sont les termes du contrat. Mais en tout cas, ça sera un chouette teaser avant la reprise du spectacle la saison prochaine, en tout cas au 140.
Et est-ce que donc à partir de vendredi, on pourra voir ce teaser et le spectacle, il sera. Vous avez déjà les dates au théâtre au 140?
Oui. Alors quand je dis teaser, c'est vous allez voir l'intégralité de la captation. Hein. C'est une captation qui est faite de bout en bout. Donc, vous allez voir tout le spectacle. Mm-hmm. Mais nécessairement, vous n'allez pas pouvoir le voir. Enfin, en général, ça donne envie de le voir en vrai dans une salle de théâtre.
Oui, oui.
Et alors, c'est le spectacle aura lieu le 12 et 13 mai. Sera représenté. En tout cas, au niveau des dates qu'on connaît déjà, le 12 et 13 mai 2022 au Théâtre 140.
Ok, donc ça postpose d'un an ce qui est la programmation prévue, c'est ça?
C'est ça, c'est-à-dire que c'est le Théâtre 140 reprogramme le spectacle la saison prochaine.
Et comment justement ça a été vécu avec des personnes qui sont non professionnelles et donc c'est justement le fait de postposer. Est-ce que du coup la disponibilité elle est toujours là? Est-ce que vous avez dû faire des accommodements?
Alors la disponibilité. Il faut qu'il y ait un minimum indispensable et ensuite il faut voir parce qu'on ne peut pas s'assurer de toute la disponibilité parce que dans la troupe on est 30. Au niveau de l'équipe technique il y a une dizaine de personnes au niveau du cadre. Puis après il y a les locaux, les lieux de résidence, etc. et tout parce que parallèlement à la reprise de ce spectacle, on crée un nouveau spectacle aussi. Donc si vous voulez, je m'assure d'un minimum de présence, c'est-à-dire que au niveau technique et au niveau des gens de la troupe. Mais en général, dans la troupe, la majorité des personnes restent quelques saisons au moins dans la troupe. Donc c'est pas juste pour un spectacle. Donc on travaille toute l'année dans la troupe, et 3 fois par semaine si vous voulez, et pas forcément pour un spectacle. On travaille pour le plaisir de travailler, de créer, de en s'amusant aussi. Et donc les gens sont là en général. Voilà, c'est une troupe qui n'est pas là que pour un seul spectacle. Donc on peut imaginer qu'elle sera là pour celui-ci aussi. Et puis on voit aussi pour plus loin, parce qu'au lendemain des spectacles, on fait un débriefing et on voit un peu où chacun en est. Et donc là, en l'occurrence, normalement, le spectacle reprendra avec l'ensemble, la grande majorité des personnes qui étaient là. Et après, il se peut qu'il y ait une personne qui, parce qu'elle doit aller vivre à l'étranger, ou qu'elle est hospitalisée, ou je ne sais quoi, soit remplacée par quelqu'un qui attend de rentrer dans la troupe depuis une saison, parce qu'on est assez complet, si vous voulez. Et on ne sait pas accueillir plus de 30 personnes. Donc voilà comment les choses se passent.
Merci beaucoup en tout cas, Farid Oussemghen, d'avoir partagé avec nous autour de ce spectacle et de la troupe du possible. Donc dès vendredi, on peut voir le spectacle donc sur OVIO, et puis on vous invite quand même à noter déjà dans vos agendas le rendez-vous de mai 2022. Merci beaucoup.
Merci à vous, Zoé. Merci à Radio Panique et à votre inventivité pour le dispositif de ce matin.
Mais voilà, je suis ravie d'avoir réussi à ce que ça marche. Merci, merci à vous et bonne continuation théâtrale avec la troupe du possible. Et nous, on va continuer en musique dans ces promesses de l'aube.